94.9. Attends, ça fait bizarre ce bruit que j'ai dans le micro. Mais c'est pas grave, bienvenue.
C'est normal parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. J'en peux plus. Je suis fatigué en fait. Je sais pas ce qui se passe. Mais parce que j'ai pas arrêté pendant une heure de danser là, avec ces musiques que nous met Enrique. Voilà, et faut que j'arrête. En plus, je suis en voiture quand je t'écoute, Enrique, en arrivant. Et c'est dangereux de conduire en t'écoutant, en fait. On ne pense jamais à ça, mais c'est vraiment très dangereux. Bonjour à tous, désolé, ça démarre bien. Vous avez compris qu'on était en direct sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique avec la rediffusion le mardi matin à 10h. Et pendant une heure, nous allons parler de l'actualité scientifique. Il faut dire qu'il y a eu quand même pas mal de choses annoncées ces derniers jours. Et ça va être intéressant de faire le point sur cette nouvelle astronaute française qui a été désignée. Elle s'appelle Sophie Adnaud. Nous allons parler, bien sûr, de la Coupe du Monde au Qatar. Parce que franchement, je ne sais pas. On entend tellement de choses. Nous, on fera un point sur le côté bilan carbone. Il y a eu un article assez intéressant qui fait un petit peu le point là-dessus. On ne parlera pas de l'aspect sportif, mais l'aspect scientifique de tout ça. Et puis aussi cette annonce, ce chiffre, ce nombre de 8 milliards d'humains sur Terre. Alors, moi qui suis né au milieu des années 70, donc j'étais enfant dans les années 80, on parlait de 5 milliards, après 6 milliards. Et après, j'ai l'impression que ça va tellement vite que là, on est déjà à 8 milliards. Et ça pose beaucoup de questions également. Ce seront parmi les sujets. Et puis, on parlera aussi d'Artemis, la mission vers la Lune. En fait, on l'annonçait depuis le mois d'août et ça y est, c'est enfin parti, ça a bien décollé. Donc voilà un petit peu le point que l'on fera dans cette émission de Biotine. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Comme nous sommes en direct aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer des SMS au 06 95 065 026 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir à l'actualité en direct par SMS exclusivement. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre, ça passe tellement vite, au niveau de l'éphéméride en 1965, comme on va parler de fusée dans cette émission, et bien en 65, la France lance, et ça se passe en Algérie, sa première fusée de type diamant utilisée pour la mise en orbite de son premier satellite artificiel. Le premier satellite artificiel français s'appelait Astérix, faut pas l'oublier, et c'était donc 65. L'année d'après, en 66, c'est l'ouverture de la plus grande usine marémotrice du monde. C'est au niveau du golfe de Saint-Malo, toujours en France. C'est le barrage de la Rance. C'est assez intéressant parce que en fait, on produit de l'électricité avec les marées. Marées descendantes, marées montantes, tout ça fait tourner des turbines et tout ça produit de l'électricité. Ça a été pendant des années et des années la seule usine marémotrice du monde. C'est-à-dire que c'était la seule usine qui permettait de produire de l'électricité à partir de ce système d'utilisation des marées montantes et descendantes. Si vous allez du côté de Saint-Malo ou du côté de Dinard, vous pouvez notamment visiter cette usine, c'est assez intéressant, et vous pouvez en voiture passer dessus et voir quand même ce... Donc le fleuve s'appelle la Rance, assez large, et donc du coup ça permet d'avoir une production d'électricité assez conséquente. Alors, on peut se poser des questions parce que ça a été pendant très longtemps la seule usine marémotrice du monde, ce qui veut dire que peut-être finalement c'était pas nécessairement un dispositif aussi performant et optimal qu'on pourrait le souhaiter. Il y a eu une autre usine qui a été construite il y a quelques années assez récemment en Chine, si je ne dis pas de bêtises, donc il y en a deux maintenant au monde, mais en fait en 66 ça a été l'ouverture de cette grande usine marémotrice. 77, la mise en service du métro à Marseille, le 26 novembre. En 88, toujours dans l'espace, le départ de Soyouz vers la station Mir en 1988. Et parmi les trois cosmonautes, il y avait le français Jean-Luc Chrétien. Et enfin, le dernier vol du Concorde, c'était à Bristol, au Royaume-Uni, le 26 novembre 2003. Naissance, le 26 novembre 1832, de Mary Edwards Walker, médecin, chirurgienne américaine, féministe, abolitionniste, prohibitionniste, prisonnière de guerre et la première femme à avoir reçu la médaille d'honneur qui est la plus haute décoration de l'armée américaine. En fait, elle a obtenu son diplôme de médecin, elle se marie ensuite et elle commence à pratiquer la médecine. Et au début de la guerre de sécession, elle se porte volontaire pour servir dans l'armée de l'Union en tant que chirurgien. Elle est capturée par les forces de la Confédération après avoir traversé les lignes pour soigner des civils qui étaient blessés. Elle était considérée comme une espionne, donc elle a été emprisonnée et puis elle a été échangée avec des prisonniers confédérés. Et après la guerre, elle est proposée pour recevoir cette médaille d'honneur en raison de sa contribution à l'effort de guerre. Elle reste la seule femme à l'avoir reçue et elle fait partie des 8 civils à en avoir été décorée. Elle devient écrivain, elle devient conférencière et elle apporta son soutien au droit de vote des femmes aux États-Unis. Elle est morte en 1919. Mary Edwards Walker est donc née un 26 novembre, c'était en 1832. Décès de Niels Stisson, il est décédé le 26 novembre 1686, donc nous sommes au XVIIe siècle. Anatomiste, géologue et évêque aussi, d'origine danoise, il fut l'un des premiers à formuler des principes en géologie. C'était une branche qui était peu connue des sciences naturelles. La géologie, c'est la science de la Terre, donc on est plutôt sur l'aspect minéral, sur l'aspect terre, cailloux, roches, sédiments. Le plus connu, il a formulé des principes en géologie, et le plus connu d'entre eux, c'est le principe de superposition. Ça veut dire que la couche supérieure d'une succession de sédiments est toujours plus récente que les couches sous-jacentes, et sa vie est en grande partie marquée par son conflit personnel entre les explications religieuses, parce que je vous ai dit qu'il était également évêque, un peu les explications religieuses des phénomènes naturels ayant cours, et les découvertes scientifiques qu'il fit, lui, en ce domaine. Donc il y avait quand même un conflit personnel assez marqué dans ces deux domaines. Il est déclaré bienheureux par Jean-Paul II en 1988. Sa devise était « exactitude de l'expérience, résultat reproductible », disait-il. Niels Stisson, qui est donc décédé un 26 novembre 1686. C'était un Danois et effectivement on parle très peu du Danemark dans cette émission. C'était l'occasion de le faire, bien évidemment. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et également en rediffusion le mardi matin le mardi matin à 10h. Alors, donc je vous disais qu'il y avait plusieurs actualités qu'on allait évoquer. On va peut-être évoquer un petit peu l'espace. Moi, j'aime bien, c'est toujours intéressant. D'autant que là, ça concerne aussi la France. Sauf que je n'ai pas le bon. J'ai pas le bon sujet sous les yeux. Ça devient n'importe quoi, cette émission. Pardon, je vais y arriver. L'Agence spatiale européenne, excusez-moi, c'est de la totale improvisation. Heureusement que je ne suis pas filmé, hein, parce que Enrique, lui, il fait son émission en direct sur Facebook Live. Moi, pas du tout, ce que vous me verrez en train de chercher dans mes feuilles. Donc, je reviens sur cette Agence spatiale européenne qui a donc annoncé cette semaine les 5 nouveaux astronautes sélectionnés pour faire partie du corps des astronautes de carrière. Et côté français, il y a donc une Française qui s'appelle Sophie Anneau, la première femme française pilote d'essai d'hélicoptère. Elle est aujourd'hui lieutenant-colonel de l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, il s'agit de la deuxième femme française astronaute, 20 ans après Claudie Aigneret. Et puis, dans les nommés, en tout cas, il y a une Britannique, Rosemary Coogan, un Espagnol, un Belge, un Suisse et du coup, un autre Britannique également, notamment John McFaul, qui devient le premier para-astronaute désigné également. Il y a 11 réservistes qui ont été également sélectionnés, présentés au grand public. Il y a un autre Français réserviste qui s'appelle Arnaud Prost. Et cette nouvelle promotion rejoint donc les 7 astronautes européens déjà en activité. Et parmi ces 7 astronautes européens en activité, il y a bien sûr le Français Thomas Pesquet. Donc cette nouvelle promotion, elle va être amenée à rejoindre la station spatiale international pour y mener des expériences scientifiques, parce que la situation d'apesanteur qui existe dans la station spatiale permet de pouvoir mener des expériences qui sont impossibles bien sûr à réaliser sur Terre et dans différents domaines, c'est ça qui est intéressant, médecine, biologie, physique, neurosciences et également botanique. Et puis il y a également une destination plus lointaine qui attend certains éléments de cette nouvelle promotion, à savoir la Lune. On sait que la Lune est une destination maintenant qui va être proposée au cours de cette décennie. On suivra ça, bien sûr, parce que d'ici la fin de cette décennie, il y a des astronautes européens qui seront amenés à participer à 3 vols à bord de la station orbitale Gateway qui sera en orbite autour de la Lune. Et à plus long terme, il y a d'autres vols vers la surface de la Lune qui sont envisagés. Alors, comment cette nouvelle promotion d'astronautes a été recrutée? Et il y a un article de Futura Science qui explique un petit peu tout le processus, ce qui s'est passé avant cette promotion, enfin nomination, et ce qui va se passer après. C'est assez intéressant parce qu'on apprend en fait que les campagnes de recrutement d'astronautes en Europe, il n'y en a pas souvent. La dernière, elle datait de 2009, donc il y a quand même 13 ans. Et à l'époque, il y avait 8000 candidats qui avaient postulé dans toute l'Europe, et au final, il n'y avait que 6 places qui étaient proposées. Et bien, pour cette campagne-ci qui a démarré l'année dernière, il y a eu 22 000 candidatures, dont plus de 7000 candidatures françaises quand même. Donc c'est assez important. La France est la nation la plus représentée parmi les postulants au départ. Et il y a donc une sélection qui dure plus d'un an. Elle commence avec un certain nombre de critères, notamment des critères d'âge, de formation, d'expérience. Il faut avoir entre 27 et 50 ans. Il faut être diplômé au minimum d'un master dans un domaine scientifique. Il faut au moins 3 années d'expérience professionnelle et il faut parler bien sûr un anglais courant, indispensable pour apprendre le métier dans un contexte international. Et en fait, on demande bien sûr un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master en sciences, être médecin, chercheur, pilote, tout ça c'est indispensable bien sûr pour devenir astronaute, mais il faut être aussi un peu comme un véritable couteau suisse, nous dit Futura Science, parce qu'il y a de la plongée, il y a de l'aviation, il y a du parachutisme, musique, langue, expérience étrangère. C'est-à-dire que les candidats doivent présenter des compétences, on va dire techniques bien évidemment, mais aussi des compétences opérationnelles. Il faut aussi être capable de garder son calme, bien sûr, sous la pression, rester motivé face à des horaires de travail irréguliers, bien sûr, et des déplacements fréquents, s'adapter à son environnement, et puis aussi être un bon coéquipier également. C'est ça qui est aussi assez indispensable, et on n'en doute pas, bien sûr. Alors, l'objectif de la sélection, c'est pas nécessairement de chercher des super-héros, mais de chercher des personnes qui ont le potentiel de le devenir. Et à l'issue d'une première phase d'étude des dossiers, ça permet d'écrémer déjà 90% des candidatures. Et les candidats sélectionnés doivent passer des tests psychotechniques, psychologiques, que ce soit individuel ou en équipe, et des tests de tout genre, des tests de logique, d'orientation dans l'espace, de la capacité aux multitâches, des tests de mémoire, des tests de calcul mental. En tout, il y a une vingtaine d'épreuves assez intenses dont le but, c'est pas d'observer si la personne est ultra performante pendant une minute, mais c'est l'idée de tester à la fois la motivation et d'analyser sur la durée, c'est ça qui est important, si la performance, elle tient encore, alors si ça s'écroule également. Donc on est vraiment sur de l'endurance quelque part. Et après ces épreuves, il reste encore une centaine de candidats. Et pour plusieurs centaines de candidats, le marathon ne fait que commencer parce qu'ils vont avoir des tests collectifs pour mieux comprendre les personnalités de chacun dans des contextes assez variés. Là, c'est de sélectionner un petit peu ceux qui vont s'intégrer le mieux dans une équipe, qui vont prendre les meilleures décisions sous la pression, qui seront donc à la fois résilients, patients, persévérants, calmes, organisés et qui puissent aussi avoir une bonne tolérance vis-à-vis d'un confinement ou d'espace réduit, parce que l'idée, c'est d'aller quand même dans une station spatiale internationale un certain temps, bien sûr. Et puis, il y a également des tests médicaux assez poussés qui sont menés pendant une semaine. Au final, on arrive donc à avoir cette sélection. Et pour ces nouveaux astronautes, ça ne fait que commencer, parce que maintenant, ces astronautes qui ont été désignés, il va falloir qu'ils soient formés. Ils seront amenés à réaliser chacun au moins 2 vols d'une durée de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Et en plus, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de plombier dans cette station internationale. Il n'y a pas de logisticien ni rien. C'est-à-dire que les astronautes doivent être capables de tout faire, doivent donc tout apprendre sur le fonctionnement de la station et être capable notamment de la réparer. Et donc la formation, elle commence par 18 mois de formation théorique avec une remise à niveau dans de nombreux domaines, la mécanique spatiale, la propulsion, la biologie, les systèmes spatiaux, l'informatique, le calcul de trajectoire et aussi de la médecine. Alors tout cet entraînement va se faire essentiellement au Centre européen de formation des astronautes. C'est à Cologne, en Allemagne, où ça se passe. Mais il y a aussi des voyages qui sont prévus avec les pays contributeurs à la station spatiale internationale, donc des échanges avec les États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada. L'apprentissage théorique, lui, sera doublé par des heures dans des simulateurs grandeur nature, dans l'idée de se préparer à toutes les situations, parce que les futurs astronautes vont s'entraîner dans des maquettes des modules de la Station Spatiale Internationale pour voir les choses telles qu'elles sont dans la station, en situation réelle, et de pouvoir s'entraîner à des scénarios d'urgence et à l'utilisation également des différents instruments présents dans la Station Spatiale Internationale. Et puis, il y a aussi un entraînement sur les véhicules spatiaux. Ces nouveaux astronautes, ils vont s'entraîner soit à Moscou sur les Soyouz, soit chez SpaceX à bord des Crew Dragon. Ils peuvent également s'entraîner dans d'immenses piscines qui vont reproduire en partie les conditions de sortie extravéhiculaire. C'est-à-dire que quand ils sont en dehors de la Station Spatiale Internationale pour essayer de mettre en place des réparations, bien sûr. Donc tout ça va leur être proposé pour pouvoir justement essayer de les former au mieux. Bref, c'est quand même assez long, mais c'est pas fini, hein, parce que il faudra encore 18 mois pour se préparer spécifiquement à une mission à laquelle ils seront affectés. Ça comprend de nombreuses expériences scientifiques qui seront menées à bord de la Station Spatiale Internationale, donc il va falloir connaître un petit peu toutes les manipulations, les protocoles expérimentaux sur le bout des doigts pour pouvoir le mettre en œuvre une fois sur place dans la Station Spatiale Internationale. Alors, on sait par exemple que pour sa mission Alpha, Thomas Pesquet avait mené une centaine d'expériences, dont plusieurs conçues et pilotées depuis la France, notamment des expériences sur le sommeil des astronautes, des expériences de télérobotique, également avec l'idée de pouvoir guider et capter un bras robotique notamment. Et puis, il avait testé également une pince acoustique pour manipuler les objets à distance, c'est quand même assez intéressant. Il avait également fait des expériences sur les emballages réutilisables, parce que bien sûr, la partie recyclage va être un élément clé dans l'optique des vols à longue durée, bien sûr. C'est-à-dire qu'il va falloir recycler ce que l'on produit. Enfin, il y aura bien sûr essayer d'avoir le minimum de déchets possible, voire l'objectif du zéro déchet. Puis on se souvient également que Thomas Pesquet avait mené une expérience sur le blob. Bien sûr, on en avait parlé. Il avait mené cette expérience en même temps que 300 000 élèves à la surface de la Terre, bien sûr. Donc toutes ces expériences, il faut les préparer en amont pour pouvoir les mettre en place dans la Station Spatiale Internationale. Bref, ce qui est intéressant dans cet article de Futura, c'est qu'on se rend compte que c'est 5 astronautes qui ont été donc sélectionnés, dont la Française Sophie Anneau, ne viennent pas de n'importe où. Ils ont quand même subi une phase de sélection assez intensive. Et c'est pas fini, c'est-à-dire que là et maintenant, ils vont être formés pendant un certain temps pour pouvoir ensuite aller dans la Station Spatiale Internationale et mettre en place les différentes expériences qu'ils auront sélectionnées et pour lesquelles ils se seront préparés. Donc on suivra bien sûr l'aventure de Sophie Adnaud, qui est notre nouvelle astronaute française. Félicitations Sophie, j'espère que tu seras bientôt à l'antenne de Graphite, hein, pour pouvoir, nous proposer une petite interview, ça peut être sympa, on va essayer de la contacter et on verra bien cela. Voilà, c'est un article assez long, mais je trouvais assez intéressant de pouvoir un petit peu mieux comprendre ce qui se passe quand on est astronaute. Il paraît que c'est un métier qui fait rêver, donc il faut quelque part aussi se dire que c'est parfois aussi contraignant. Vous écoutez Graphite sur 94.9 et graphite.net. Biotine, l'émission de science avec un peu de musique également, on écoute les rois de la Suède.
Rejoins-moi tant qu'il fait beau, oh, 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 oh. Je vais te raconter l'histoire de cet intrépide cougar. C'est Porgnoc, 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 l'intrépide cougar. Porgnoc, intrépide cougar. Sur notre étendard, le symbole de notre nation, la Suède seule face à l'oppression. Suède sort ses griffes et attaque au visage. Porgnoc le shérif, il défend tes rivages.
Suède, quand tout est beau, Porgnoc, quand tout est belle, Canta. Inox fait attaquer par des aliens et une armée qui tirait des lasers dans les pieds. Alors Pornoc les a mangés. Un jour Pornoc va à l'église et voit un bébé qu'on baptise. Le bébé avait un bec de lièvre. Alors Pornoc il l'a mangé. Un pont et voit des hommes sans pantalon qui lui proposent une douche dorée. Alors Pornoc les a mangés. Un jour Pornoc il aide l'OTAN. Pour toi un monstre qui tue des enfants, un monstre qui est fait en excréments. Alors Pornoc il a mangé les enfants. Attaque au visage, Pornoc le shérif, il défend tes rivages. Pornoc le shérif défend les enfants sages quand il sort de sa cage. Rapide comme une image, crustacés et coquillages, et sans peur et sans courage.
Pornoc, mais qu'est-ce que tu fais dans le noir tout seul? Mais Pornoc, mais tu pleures?
La fête chez les pauvres, c'était les rois de la Suède sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, c'est toujours intéressant de s'informer de l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite, bien évidemment. Alors, il y a eu donc ce chiffre qui a été annoncé il y a quelques jours, je crois que c'était cette semaine d'ailleurs, ce chiffre de 8 milliards, hein, un jalon capital pour l'humanité. C'est ce que note la patronne du Fonds des Nations Unies pour la Population, elle s'appelle Natalia Kanen. Elle se réjouit de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse de la mortalité infantile et maternelle, bien sûr. 8 milliards, cependant, elle dit, je me rends compte que ce n'est pas un moment nécessaire. Célébré par tous, parce que certains s'inquiètent d'un monde surpeuplé avec bien trop d'habitants et des ressources insuffisantes pour vivre, appelant, dit-elle, à ne pas avoir peur d'un nombre. Sauf que ce nombre est quand même pas anodin, 8 milliards sur Terre. Alors la question, elle est la suivante, est-ce que nous sommes trop nombreux sur cette Terre? Et en fait, il y a certains experts qui nous disent que c'est pas la bonne question, parce que trop nombreux, trop pour qui, trop pourquoi? Si vous me demandez si je suis de trop, je ne pense pas. C'est ce que répond à cette question à l'AFP Joël Cohen de l'Université Rockefeller à New York. Je considère la question du nombre de personnes que la Terre peut supporter comme une question à deux facettes. Les contraintes et ou les limites naturelles et les choix faits par les humains, nous dit-il. Bref, des choix qui font bien sûr que nous consommons bien plus de ressources biologiques, les forêts, les poissons, les terres, ainsi que beaucoup plus de ressources que la Terre peut en générer chaque année. Et cette surconsommation, notamment d'énergie fossile, entraîne toujours plus d'émissions de CO2 responsables, on le sait, du réchauffement climatique global. Bref, c'est un cercle vicieux. Côté ressources, on estime qu'il faudrait en fait plus d'une terre pour pouvoir subvenir aux besoins de la population de façon durable, hein, c'est ce que indiquent différentes ONG, et on estime qu'il faudrait une terre plus trois quarts de terre, donc 1,75 terre pour que l'on puisse pouvoir subvenir à nos besoins. Côté climat, le dernier rapport des experts climat de l'ONU, le GIEC, eh bien ce dernier rapport notait que la croissance de la population est bien l'un des moteurs majeurs de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais moins, dit-on, que la croissance économique. Bref, notre impact sur la planète est déterminé bien plus par nos comportements que par notre nombre. C'est ce qu'explique Jennifer Scubia, chercheuse au centre Wilson Center. C'est paresseux et préjudiciable de continuer à mettre en avant la surpopulation, hein, dit-elle. Elle souligne le risque que les pays riches, au lieu de changer leur propre comportement, eh bien, rejettent le problème vers les pays en développement qui tirent la croissance démographique. Alors, on se dit que si tout le monde vivait comme un habitant de l'Inde, eh bien l'humanité, elle aurait besoin que de 0,8 terres chaque année. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin d'utiliser toute la terre. Le problème, c'est qu'on a aussi d'autres habitants, notamment les Américains. Eux, ils ont besoin de 5 planètes par an. Et donc, quand on fait une moyenne globale, c'est là qu'on arrive à ce chiffre assez étonnant et surprenant et inquiétant de 1,75 terres. Bref, trop nombreux ou non, eh bien, le constat, c'est que ces 8 milliards d'humains, ils sont déjà là. Donc, finalement, ils existent. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et la population, elle va continuer à grossir. On projette, l'ONU projette en 2050. 2050, c'est rien, hein, c'est 25 ans, c'est un quart de siècle. On projette 9 milliards 700 millions de terriens. Parce qu'il y a un nombre important de jeunes, il y a une très large part de cette croissance. Alors, a lieu même si les pays à la fécondité la plus élevée tombaient à 2 enfants par femme. Mais de toute façon, cette croissance, elle va encore se poursuivre. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. L'ONU plaide ainsi pour une baisse de la population mondiale, mais dit-on, uniquement par des moyens positifs, volontaires et respectant les droits. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas dire autre chose. C'est ce qu'explique à l'AFP le directeur justement de l'ONG Population Matters qui lui s'oppose à toute politique de contrôle des naissances imposée par l'État. Très bien, que faut-il faire alors ? On n'en sait rien. Il y a un projet qui explique, qui est le projet Drawdown, fait lui de l'éducation et du planning familial l'une de ces quelques 100 solutions pour freiner le réchauffement climatique. Au niveau mondial, une population plus réduite avec des niveaux de consommation durable permettrait de réduire la demande d'énergie, de transport, de matériaux, de nourriture et de ressources naturelles également. Et puis, il y a aussi un problème de nourriture, parce qu'il faut assez de nourriture pour pouvoir nourrir 8 milliards d'habitants. Et du coup, là aussi, il y a des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'en clair, on est sur une situation, un constat qui n'est pas non plus une surprise, parce que les chiffres d'augmentation de la démographie terrestre sont des chiffres que l'on connaît, qui n'ont jamais été cachés. Là, on arrive quelque part sur un chiffre symbolique, parce qu'on est sur un chiffre rond. C'était précisément le 15 novembre, 8 milliards le 15 novembre. Bon, ça, on est bien sûr du symbole, bien sûr. Mais en tout cas, eh bien voilà, c'est pas nécessairement ce chiffre qui fait peur, mais c'est plutôt la surconsommation des ressources de la planète par la partie la plus riche de cette humanité qui pose problème. Donc on est là encore sur des comportements qu'il va falloir essayer de modifier, sauf que ça va pas se modifier du jour au lendemain et que là encore, on est sur du long terme assez contraignant, bien évidemment. Ça va être assez compliqué, bien sûr. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette actualité assez, assez anxiogène quelque part, en fait. C'est assez étonnant. On va partir au Qatar avec la Coupe du Monde de football 2022 qui fait beaucoup parler. Alors, il y a un article qui était assez court, que je voulais vous lire, concernant l'empreinte carbone de la Coupe du Monde du Qatar. Le comité d'organisation de cette Coupe du Monde, qui s'était basé sur les calculs d'un cabinet spécialisé, eh bien, le comité d'organisation estime que l'événement va émettre un équivalent de dioxyde de carbone avec un chiffre qui a été mentionné de 3,6 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone. Alors ça veut dire quoi ? Parce que là c'est un chiffre aussi qu'on n'arrive pas nécessairement à bien comprendre. On dit que cela correspond au bilan carbone des Jeux Olympiques de Rio au Brésil qui est organisé en 2016 mais aussi à 2 fois plus que la dernière édition de la Coupe du Monde qui avait lieu en Russie il y a 4 ans. Ou aussi, ça donne un petit peu un équivalent, c'est l'équivalent de ce que va produire un pays comme l'Islande également en un an. Donc ça nous donne un ordre d'idée où on se dit, ok, c'est niveau JO de Rio, c'est le double de ce qui avait été fait en Russie, ainsi de suite, mais c'est un chiffre qui a été annoncé. Et en fait, certains s'en sont étonnés parce qu'ils se sont dit quand même, c'est assez étonnant parce que quelque part, ce chiffre paraît assez bas par rapport à ce que l'on sait de cette organisation de la Coupe du Monde. Le secret, parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des stades qui ont été construits en plein désert, enfin, il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes, et le secret du comité d'organisation du Qatar pour éviter d'alourdir son bilan carbone, c'est d'étaler l'émission des chantiers de ces stades sur 60 ans. Ça, c'est malin, parce qu'en fait, ils disent, mais de toute façon, les stades, ils vont pas être utilisés uniquement pour la Coupe du Monde, mais après, et donc finalement, ils se sont dit, mais il faut étaler alors un petit peu tout ce bilan carbone sur plusieurs années, mais sur 60 ans, ok. Mais c'est quand même assez, assez surprenant parce que quelque part, on a des éléments qui sont apparemment pas pris en compte. La climatisation des stades n'est pas prise en compte, même si, nous dit-on, il y a quand même une partie de la climatisation qui est assurée par une électricité d'origine solaire. Et puis, il y a des infrastructures qui ont été construites autour des stades, des réseaux routiers, des hôtels, des complexes commerciaux. Il y a même aussi des parcs d'attractions. Donc, tout ça doit aussi être pris en considération. L'un des gros postes d'empreinte carbone de cette Coupe du Monde de football, c'est le transport. Les calculs qui ont été menés par une entreprise française qui s'appelle Greenly, les calculs donnent une empreinte de 2,4 millions de tonnes CO2 pour le transport des supporters, parce que tous ne vont pas pouvoir être logés sur place, ils devront trouver des hôtels aux alentours, ils vont donc emprunter des navettes, il y a aussi des avions qui vont être utilisés, notamment des jets privés, qui vont émettre également du CO2, et en fait, tout ça va être difficile à estimer en amont, on en saura peut-être plus par la suite. Et donc, ce qui avait été annoncé en amont par le comité d'organisation du Qatar ne prenait pas également tous ces éléments-là. Et puis, on rajoute aussi le poids de la pollution numérique. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez un match qui a lieu dans un stade du Qatar, vous avez des millions, peut-être des milliards, je n'en sais rien, de téléspectateurs qui vont donc utiliser des moyens de retransmission des matchs qui, eux, vont donc utiliser de l'énergie et donc tout ça va aussi produire du CO2. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on estime que la consommation moyenne d'un écran de télévision a un impact de 1 à 2 millions de tonnes de CO2 par match. Donc, vous rajoutez tout ça et ça vous fait une facture assez intéressante qui fait que l'empreinte carbone de la Coupe du Monde du Qatar est au moins le double de ce qui a été annoncé par le comité d'organisation. Et encore, on n'en sait pas tout. On en saura un petit peu plus quand on fera un bilan, bien sûr, mais il y a quand même quelque part une certaine aberration dans l'organisation de cette Coupe du Monde du Qatar. Et au niveau du bilan carbone, c'est très, très mauvais et pas nécessairement vertueux apparemment, même si on essaye de mettre du greenwashing un petit peu partout, ça et là, mais quelque part, ça marche pas, faut pas se leurrer. Allez, on écoute Bertrand Belin sur l'antenne de Graphite et on ira voir ce qui se passe au niveau d'Artemis. Décollage vers la Lune, enfin réussi.
Je cours, et toi, tu cours devant. Je souffle, je cours, et toi, tu cours devant. J'entends, tu ris, tu cours et tu ris. Comment peux-tu courir et rire autant? Tes pas se plaquent, tapent, battent comme le cœur d'un oiseau perdu sur le tarmac. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Tu veux que je sois vif, ton puma. Tu veux que je lance mes ordres de mon armée sur toi. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil. Comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas.
Neige au soleil, c'était Bertrand Belin sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis, pardon, entre 12h et 13h, et tous les mardis à partir de 10h sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, et graphite.net bien sûr pour ceux qui nous écoutent en direct sur le site internet ou en différé grâce au podcast, bien évidemment. Retour en mars dernier, mars 2022, c'est la première fois que le lanceur SLS, le Space Launch System, eh bien, il se montrait tout entier au public de Cap Canaveral. Il dominait le site de lancement historique. Il se dirigeait lentement vers le pas de tir. Il rappelle un peu aux observateurs qui étaient présents et à toute une génération le chemin que parcourait la Saturn V vers ce même pas de tir avant d'envoyer des astronautes sur la Lune. C'est une étape clé pour la NASA qui a réussi le roulage de la fusée lunaire SLC, mais que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, il a fallu vérifier que ce lanceur s'adapte bien à son pas de tir et la NASA avait prévu une répétition générale au début du mois d'avril. Ben finalement, ça a eu lieu le 20 juin et ça a notamment inclus le test de remplissage des réservoirs de ce lanceur. Parce que pour décoller, la fusée lunaire va consommer de l'oxygène et de l'hydrogène à l'état liquide. Alors, les réservoirs, ils ont déjà été bien sûr testés au préalable jusqu'à l'explosion, mais il s'agit quand même de vérifier que tout fonctionne bien dans les conditions du compte à rebours du lancement. Et donc, il y a eu une répétition générale qui s'est passée, qui était pas tout à fait complète, mais la NASA avait communiqué une date, une première date de décollage, c'était le 29 août. Et on s'attendait à quelque chose le 29 août. Alors, il n'y a personne à bord du vaisseau spatial Orion qui a été posé au sommet de ce lanceur. Parce que Artemis 1, c'est le nom de cette mission, et c'est une mission de qualification à la fois du vaisseau fabriqué en Europe et aux États-Unis, mais aussi de ce lanceur produit par Boeing. Et si la mission est un succès, eh bien on aura donc la mission Artemis 2 avec les astronautes qui vont prendre le relais. Et donc, le pas de tir du centre spatial Kennedy, qui avait connu Apollo 10, la navette spatiale américaine, le lancement de la station spatiale Skylab, la mission de paix Apollo-Soyuz, bref, ce pas de tir a été rénové, il a été renforcé parce qu'il faut quand même soutenir un poids assez important. On nous explique que le poids, il est équivalent à plus de 2100 éléphants d'Afrique. Alors effectivement, c'est quand même assez lourd, assez robuste, parce que cette fusée lunaire SLS, elle pèse plus de 2600 tonnes. Et cette fusée ne jouera un rôle dans la mission que pendant 1h et 53 minutes. Le reste de la mission concerne le vaisseau Orion et durera près de 25 jours. Et en fait, le décollage de tout ça a été, vous le savez, on en a parlé dans cette émission depuis la reprise à la rentrée de septembre, ça a été reporté plusieurs fois depuis la date du 29 août en cause des soucis de fuite d'hydrogène, un capteur défaillant également. Et la menace d'un ouragan, oui, parce que comme ça, quand on y est, on a comme ça, on a tout. Et finalement, le décollage tant attendu a eu lieu enfin, et c'était le 16 novembre dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine que cela a pu être mis enfin en place. Le lancement commence par la mise à feu des quatre moteurs ainsi que des deux propulseurs gigantesques, propulseurs d'appoint à carburant solide. Ils ont été éjectés deux minutes plus tard, complètement vidés de leur carburant. En fait, c'est les premières minutes qui sont essentielles dans ce décollage. Les moteurs continuent de rugir pendant 6 minutes et l'étage principal du lanceur, qui est reconnaissable par sa couleur rouge, il a terminé son travail. Et nous sommes à plus de 150 km d'altitude. Nous sommes donc dans l'espace au bout de 6 minutes. Et 2 minutes après le largage de l'étage principal, eh bien, le vaisseau Orion, lui, déploie ses panneaux solaires. Il aura déjà été débarrassé de ses panneaux de protection ainsi que de la tour de sauvetage. C'est un dispositif indispensable pour éjecter le vaisseau et ses occupants au cas où la fusée prend feu sur le pas de tir ou en traversant l'atmosphère. Donc tout ça est prévu au cas où ça se passerait mal. Comme ça s'est bien passé, eh bien, tout ce dispositif a été débarrassé et donc le vaisseau Orion revient seul. Et 54 minutes après le début du lancement, c'est là que débute la propulsion du second étage qui s'appelle l'ICPS. Et cet ICPS sert une première fois pour prendre de l'altitude et une seconde fois, une demi-heure plus tard, pour injecter le vaisseau Orion sur une orbite de transfert vers la Lune. Et une fois que sa mission elle est faite, eh bien, ce second étage, l'ICPS, est largué. Et donc, du coup, le vaisseau est sur sa base, sur sa bonne trajectoire. Alors, il faut savoir que le vaisseau Orion n'en est pas à son premier vol de démonstration. Il avait déjà fait un premier vol en 2014 dans le cadre du programme Constellation, qui était un petit peu précurseur de ce programme actuel Artemis. Ce vol va lui permettre de tester une fois de plus le module habité. On le sait, parce que l'idée, c'est maintenant d'envoyer des astronautes sur la Lune, bien évidemment. Alors, il faudra être patient hein, quand même pour la suite, parce que il faudra attendre les résultats de cette première mission. Il va falloir les exploiter. Et donc, Artemis 2, la deuxième phase de cette mission, ne devrait pas avoir lieu avant l'année prochaine, voire 2024, nous dit. Ce sera la première mission du programme avec des astronautes à bord, mais eux, ils ne vont pas se poser sur la Lune. Ça va être un petit peu comme le cas avec Apollo 10. Ce sera un genre de tour en mode répétition générale, parce que ce sera finalement la mission Artemis 3 qui, elle, va faire revenir les astronautes à la surface de la Lune. Et il y aura une première marche lunaire d'une femme dans l'histoire, justement, de la conquête spatiale. Une femme va pouvoir marcher sur la Lune. Et ça sera dans le courant de cette décennie, bien évidemment. Donc, c'est parti pour Artemis 1, enfin, parce que ça fait quand même plusieurs... plusieurs mois que l'on parle de cette mission Artemis 1, ça a enfin décollé et donc on va pouvoir suivre un petit peu les résultats de cette mission et voir un petit peu la suite du programme, bien sûr, avec Artemis 2 et 3, on aura sûrement l'occasion, je pense, de suivre ça sur l'antenne de Graphite. On écoute un dernier titre et puis on terminera cette émission avec quelques petites brèves d'actualité scientifique. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite.
On a une perturbation qui va arriver. Alors elle le fait dans un champ de pression élevé, ça veut dire qu'elle ne sera pas très active côté précipitation, mais tout de même, elle va passer. Donc on va la retrouver déjà demain matin. Alors essentiellement...
Quand je rentre vers 20h... 20h après une dure journée de labeur, j'aime bien me caler devant la télé. Et je sais que pour des millions de Français, pour évacuer le stress, est devenu un réflexe. Diffusion quotidienne aux images déroutantes sur lesquelles s'égrène une voix off alarmante, production hollywoodienne d'une info désolante. Le grand messie manipule les esprits et tente d'implanter sa triste vision de la réalité. Information falsifiée, choisie pour faire du profit une demi-heure. Après, c'est terminé. Bonne soirée, bonne soirée. Ils appellent ça le JT. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Début de migraine, j'ai changé de chaîne. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Début de migraine, j'ai changé de chaîne.
L'ancien patron d'ERG laisse entendre qu'il aurait cherché à déstabiliser Lionel Jospin ou Nicolas Sarkozy.
Et je suis tombé sur un parloir télévisuel avec des grands gens qu'on qualifie d'intellectuels. Mais au lieu d'aborder une discussion avec un véritable sujet de fond, on mise encore sur du sensationnel et on se dispute des propos superficiels. Ces marionnettes pleines d'éducation m'ont mis la rate au courbouillon. Et quand, pour conclure le débat, ils ont fini en pugilat. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Putain de migraine, j'ai changé de chaîne. Ça m'a saoulé et j'ai zappé. Putain de migraine, j'ai changé de chaîne. Je me permets de rire, car je pensais pas que le pire restait à venir. Oh, bienvenue sur le plateau des jeux navrants, où des candidats, certainement très intelligents, viennent faire étal de leur culture. Mon Dieu, d'être aussi con, ça doit être dur. Et dans le milieu de la bouffonnerie TV reality immonde qui incarne la bêtise du monde, c'est normal si tu t'es pas reconnu dans ce troupeau d'individus. Dans un monde gouverné par les médias qui se discutent ton petit déj en traplant, c'est pas bien qu'il faut bouger entre les repas. Et... ça m'a saoulé, j'ai mal au crâne.
J'ai zappé, c'était Fab Ebb, Fab, pardon, Fab M, je vais y arriver sur l'antenne, de Graphite 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On annonce il y a quelques minutes le décès de l'actrice et chanteuse américaine Irene Cara, qui était interprète notamment star du film Fame et l'interprète du tube What a Feeling. Elle est décédée à l'âge de 63 ans. C'est vrai que ça nous, voilà, ça nous fait quelque chose parce que c'était une musique qu'on avait souvent entendue, donc le décès d'Irene Cara. Avant de nous quitter, aucun rapport, hein, car au niveau de l'actualité scientifique, mais comme je venais de recevoir une notification, c'était pour vous prouver que nous étions bien en direct. L'agence gouvernementale chargée de la cartographie du Royaume-Uni vient de l'annoncer, enfin l'annoncer il y a quelques jours. Il y a un événement qui est en train de se produire dans le pays. Ça se passe dans une petite ville, un village côtier du sud du Royaume-Uni qui s'appelle Langton Matravers. C'est l'alignement des trois nords. Le vrai nord, le nord magnétique et le nord des cartes, parce que il coexiste en fait en réalité trois définitions du nord. Il y a la direction du vrai nord, c'est celle du nord géographique, c'est celle de la ligne de longitude qui rejoint le pôle nord, donc ça c'est le premier nord, tout ça, ça ne bouge pas. Il y a la direction du nord magnétique, elle qui correspond à celle qui relie un point sur Terre à l'endroit où le champ magnétique de notre planète pointe vers le bas, et c'est à peu près la direction qu'indiquent les boussoles d'une façon générale. Ce nord magnétique, eh bien, la position va varier légèrement au fil du temps, au gré des variations du champ magnétique, bien sûr, de la Terre. Et puis, enfin, il y a la direction du nord des cartes, qui est tout simplement donnée par les lignes tracées sur les cartes. Et la différence avec le vrai nord vient de la nécessité de s'affranchir de la courbure de la Terre. Et selon donc les experts de cette agence britannique chargée de la cartographie, c'est essentiellement le mouvement du nord magnétique qui permet la convergence de ces trois nords. et les prévisions pourraient encore évoluer en fonction des mises à jour des observations du champ magnétique terrestre. Mais à l'heure actuelle, les spécialistes prévoient que, donc, du coup, au niveau de cette commune de Longton Matravers, eh bien, ce triple alignement va se déplacer vers le nord du Royaume-Uni d'ici Noël. Ça va passer par Birmingham et ça va atteindre le Yorkshire l'année prochaine, voire même 2024. Et Mark Graves, qui est un expert en mesure de la Terre, explique qu'il n'est pas exagéré de dire que c'est un événement qui ne s'est jamais produit auparavant. Le nord magnétique se déplace lentement. Il faudra donc probablement plusieurs centaines d'années avant que cet alignement ne se reproduise. C'est un événement unique dans une vie. En raison de l'imprévisibilité du champ magnétique sur de longues échelles de temps, il n'est pas possible de dire quand est-ce que ça va se reproduire, nous dit-il. C'est une bizarrerie donc intéressante, mais sans conséquence pour tous ceux qui utilisent des cartes ou des boussoles, parce que les mêmes règles vont continuer de s'appliquer, bien évidemment. Mais c'est assez inédit de voir ces trois nords qui vont converger au même endroit. Et c'est en train de se passer en ce moment même, nous dit-on. C'est assez étonnant, bien sûr. Et puis, on va terminer avec cette actualité scientifique qui est finalement apparemment assez sérieuse parce que ça paraît un petit peu tiré par les cheveux, mais les scientifiques de l'université de Brisbane en Australie ont des arguments pour pouvoir étayer leur hypothèse. Et ça, je l'ai écouté sur certains médias. Vous l'avez peut-être entendu également. Cette hypothèse est la suivante. Le fait de se fouiller le nez, de se curer le nez, en fait, pourrait engendrer des maladies neurodégénératives comme la démence ou Alzheimer. Nous sommes les premiers à montrer que la bactérie Chlamydia pneumoniae peut aller directement du nez au cerveau, où elle peut déclencher des pathologies qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer. Nous avons observé cela chez les souris, c'est potentiellement effrayant pour les humains aussi. C'est ce qu'explique notamment le professeur Sturgeon, qui est l'auteur de l'article paru dans la revue Scientific Reports. Et donc cette bactérie Chlamydia pneumoniae, elle infecte toute la partie respiratoire, mais elle a aussi, donc le nez, mais elle a aussi la capacité de pouvoir coloniser le cerveau. Et les scientifiques australiens ont observé que la bactérie, elle atteint le cerveau des souris 72 heures après leur infection. Et plus tard, ils ont constaté, au bout d'un mois, des signes de dérégulation génétique, donc déjà observés dans la maladie d'Alzheimer. Et tout ça, ils apparaissent, ces signes. Et dans le cerveau, eh bien, cette bactérie peut infecter et elle peut survivre dans certaines cellules qu'on appelle des cellules gliales. En fait, ce sont les cellules qui vont soutenir les neurones. Donc, elle arrive. Elle arrive jusqu'au cerveau, elle arrive à atteindre ses cellules, elle rentre dedans et elle reste en fait. Et ce mécanisme n'a pas été observé à ce jour chez les êtres humains, mais nous dit-on, eh bien, il va falloir faire une étude chez l'homme. Confirmer si la même voie fonctionne de la même manière. C'est une recherche qui a été proposée par de nombreuses personnes, qui n'est pas encore terminée. Et c'est ce qu'explique donc le professeur Jones. Le scientifique propose un conseil étonnant pour limiter le risque de développer potentiellement des symptômes rappelant Alzheimer. Eh bien, le fait de ne pas se mettre les doigts dans le nez pour en extraire des crottes de nez ou des poils. Je vous souhaite un bon appétit. Vous êtes à table, je suppose. Donc, le faites pas, nous dit-il, parce que si vous endommagez la paroi du nez, vous pouvez augmenter le nombre de bactéries qui peuvent aller jusqu'à votre cerveau. Bref, c'est un conseil à prendre avec des pincettes au regard des données scientifiques qui sont encore trop légères, bien sûr. Mais bon, on va suivre un petit peu cette enquête et voir si effectivement le fait de se fouiller le nez pourrait favoriser la démence et Alzheimer. Si ça devient une habitude chez vous, faites attention, je ne sais pas. Voilà, je laisse en suspens cet article et puis chacun considérera ce qu'il faut faire. Et puis c'est tout. C'est la fin de cette émission. Il est presque 12h56 sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission à partir de 12h sur l'antenne 94.9 et graphite.net. On parlera de pas mal de sujets encore. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui. Il y a des super GPS qui sont capables de géocaliser au décimètre près en milieu urbain et tout ça se fait sans satellite. C'est totalement inédit et intéressant. Il y a également au niveau de du cancer du cerveau, des nouvelles chimiothérapies qui sont assez intéressantes également. On fera des petites brèves avec également cette découverte en Belgique d'un dé, à jouer et un dé qui était truqué au mercure. Et ça a été découvert lors de fouilles qui ont été faites dans une villa gallo-romaine. Déjà à l'époque, on avait des dés pipés et ça a été découvert d'une façon totalement par inadvertance, qu'un enfant qui se baladait comme ça, il y avait une visite de cette fouille qui avait été organisée pendant une sortie scolaire. Puis un enfant, il a pris ça et il a pris le dé, il l'a brisé par inadvertance et c'est là qu'on a découvert ce qu'il y avait à l'intérieur. On parlera de ça la semaine prochaine dans la prochaine édition de Biotine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain, bien sûr. Et d'ici là, vous restez évidemment fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.